Donc, comment est-ce que vous êtes rencontrés et comment le groupe Corvius s'est créé?
Bon, bah, Nico, tu veux commencer ou...
Alors, Chris et moi, on s'est rencontrés sur une formation de marketing musical. Voilà, qui s'appelle Producteur Artiste à Succès. Donc, c'est un programme de formation de musique marketing en ligne. On s'est tous les deux inscrits, voilà, parce qu'on était arrivés à un point tous les deux où nos précédents projets musicaux n'avançaient plus et qui s'étaient aussi arrêtés de cette manière-là. Donc, lorsque on a commencé à se présenter, voilà, sur le groupe Facebook de la formation, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était les deux seuls métalleux. Voilà, la formation, donc c'était assez facile de bien s'entendre et voilà, de fil en aiguille. C'est d'abord Chris, hein, qui m'a proposé assez rapidement qu'on se rencontre, parce que voilà, il avait commencé un peu à présenter ses sons, et moi j'avais présenté un peu les miens aussi. Et du coup, on s'est vu dans un restaurant vietnamien à manger des bobounes et des pho directement et discuter musique. Et c'est là que Chris m'a proposé de rejoindre le projet qui allait devenir Corvius.
Pourrait-on savoir pourquoi ce nom de groupe? Pourquoi Corvius?
En fait, si tu veux, alors Corvius, bon, faut savoir que on a tout un concept derrière cinématographique. Et il y a tout un univers, un roman, si tu veux, qui est en développement en parallèle avec les musiques. En fait, si tu veux, c'est un... Le groupe Corvius, c'est un... on fait que des albums concept, si tu veux, dans lequel on incarne Nicolas et moi. Donc Nico, de son nom de scène aussi, Amé. Amé et moi, on incarne, si tu veux, deux mercenaires dans les années 2300, dans lesquels, avec lesquels, il va y avoir donc du coup de nombreuses péripéties. On va rejoindre un vaisseau de colonisation spatiale pour sauver la Terre d'une mort certaine. Si tu veux, le nom Corvius, c'est le nom qui a été donné à la mission de colonisation spatiale que l'on va rejoindre dans les années 2300. Donc Corvius qui est un petit peu stylisé. Normalement, c'est Corvus, le nom exact. Corvus qui voudrait dire corbeau en latin. Et ce nom a été donné à la mission parce que le corbeau a quelques faces sombres, alors que pourtant c'est dans certaines cultures un oiseau qui est divin. Le corbeau a ses faces sombres également, c'est un charognard, donc c'est un chasseur également. Cette mission, elle est également, en fait, cet oiseau est vraiment à l'image de cette mission de colonisation spatiale qui n'a pas que des bons côtés. Ça reste mine de rien, même si c'est une mission de colonisation spatiale pour sauver l'humanité, il n'en reste pas moins que c'est de la colonisation, quoi. C'est-à-dire que il y a forcément des choix lourds de conséquences à faire si jamais dans le roman, j'en dis pas plus, hein, je garde le suspense, mais si jamais on rencontre d'autres civilisations extraterrestres qu'on va devoir peut-être notamment chasser de leur habitat ou coloniser d'autres planètes pour au nom de la survie de l'humanité, quoi. Donc il y a tout un développement derrière, effectivement conceptuel, artistique, philosophique et cinématographique derrière, que j'invite chaque auditeur à aller regarder.
D'accord, merci. On reviendra un petit peu plus tard, plus en détail dans une question sur tout cet univers justement que vous avez créé autour de votre musique. Mais vous vous définissez comme un groupe de métal cinématographique. Qu'entendez-vous par ce terme?
Alors, on dit cinématographique parce qu'on a énormément d'influence, notamment au niveau des compositeurs de films. Grand exemple qu'on a au niveau du groupe, c'est Hans Zimmer, voilà, compositeur des films de la trilogie Dark Knight, qui a beaucoup collaboré aussi avec Christophe Nolan, enfin voilà, les gros blockbusters voilà, hollywoodiens. Comme le disait Chris tout à l'heure, en fait, comme on a ce concept, voilà, de de groupe avec un background science-fiction, on utilise beaucoup le côté visuel et cinématographique. Donc vraiment, on englobe toutes ces influences-là, ce qui est qu'on se différencie vraiment d'un courant de, par exemple, de métal symphonique, même s'il y a des éléments aussi de composition, de musique de film. Nous, on pense d'abord composition, musique de film, donc cinématographique, avant de rajouter ce côté métal, rock, guitare saturée, tout ça, quoi. Donc on part vraiment d'un postulat de composition, comme si on composait une scène d'un film ou un thème, et ensuite on rajoute ce côté métal un peu plus punchy au niveau des guitares, du chant saturé, des chorus et de la batterie, etc., quoi.
Votre groupe tourne en session avec une chanteuse, Nefty, et un ingénieur du son, ASH3. Pourquoi faire des sessions et ne pas organiser votre groupe sur un système traditionnel de répétition, composition, enregistrement et tournée ?
En fait, on s'est inspiré très grandement du concept de Apocalyptica qui est très basé également sur les featuring. On a essayé, Rémi, de passer par le système traditionnel au début. Quand on s'était rencontré avec Nico en fin 2018, on avait recruté un chanteur. On l'avait recruté en février 2019. Et pour le coup, c'est vrai que certaines questions s'étaient posées. Il y a plusieurs avantages avec ce système de featuring. Il y a également le fait que plus tu fais de featuring avec des artistes qui ont déjà eux-mêmes leur propre groupe, plus effectivement, d'un point de vue totalement marketing, on va pas se le cacher, c'est vrai que ça apporte une plus grande visibilité. Parce que forcément, imagine tu travailles avec un chanteur qui a peut-être une plus grande fanbase que toi, qui a peut-être, je dis n'importe quoi, 10 000, 15 000 followers sur Instagram, le fait que ce chanteur-là va chanter avec ton groupe, et bien forcément, toute la fanbase qui est derrière cette personne va regarder ce qu'il fait, et notamment, ils vont se dire, tiens, Corvius, je connais pas ce nom de groupe, pourquoi est-ce qu'il a décidé de chanter avec eux, pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce groupe, et du coup, ça éveille un peu la curiosité, si tu veux, de toute cette fanbase, qui ne reste qu'à capter et qui n'attend que qu'on la découvre, en fait. Donc il y a, d'un point de vue marketing, de ce point de vue-là. Puis après, c'est vrai que sur le plan humain, c'est clair et net que les décisions se prennent beaucoup plus rapidement pour le coup. Quand on a des grandes décisions artistiques à prendre avec Nicolas, En général, en quelques jours, on est décidé, hein, ça c'est sûr. Même d'un point de vue également logistique, c'est clair que pour les répétitions, on n'est que deux. On est souvent que deux. Après, c'est vrai que les musiciens de session, des fois, on les appelle pour bien sûr venir répéter avec nous. Mais la plupart du temps, c'est vrai que quand on a beaucoup de setup à faire, là c'est clair que Nicolas et moi, on est en nombre suffisant, quoi.
Il y a le côté aussi artistique, pardon. Il y a le côté artistique qui est aussi super intéressant, qui apporte ce côté varié, en fait, que tu peux avoir avec plusieurs chanteurs, plusieurs artistes, et que tu ne retrouves pas forcément avec des groupes traditionnels. Et d'autre part, on s'inspire aussi notamment, comme le disait Chris tout à l'heure, d'Apocalyptica, mais il faut savoir que dans les groupes de hip-hop aussi, il y a souvent des rappeurs ou des artistes justement qui font énormément de featuring avec des chanteurs, des chanteuses. C'est très très courant, et du coup pour nous, ça nous donne une liberté, comme le disait Chris, en termes de marketing, de logistique et aussi en matière artistique. Donc c'est ce qui nous permet vraiment d'apporter une très grande richesse dans nos musiques.
Pourquoi avoir décidé de créer un univers de découverte spatiale, futuristique et de colonisation aussi, et pas avoir créé un autre univers sur une autre partie historique ?
Alors, le côté science-fiction, c'est vrai que J'ai proposé à Nicolas de rejoindre le groupe, et j'avais déjà ces idées en tête quand je lui ai demandé de rejoindre le groupe. C'est tout simplement la science-fiction, ça a toujours été vraiment une chose que j'ai adorée depuis que je suis gamin. Je suis très inspiré sur le plan cinématographique de plusieurs films, notamment Alien, bien sûr toute la saga après qui s'ensuit, Prometheus, Alien Covenant, etc. Il y a également beaucoup de Star Trek, beaucoup de Star Wars, beaucoup de films dans ce style-là qui ont vraiment formé ma jeunesse et puis même encore aujourd'hui qui m'inspirent énormément en tant qu'adulte dans la composition et dans différentes choses que je crée dans la vie courante, quoi. Donc c'est clair que j'avais vraiment envie d'apporter cette petite touche science-fiction, d'allier la science-fiction si tu veux à la musique que j'avais en tête. Et je m'étais dit, mais c'est vraiment pas bête du tout, puisque quand on prend du recul sur ce qui se fait aujourd'hui dans le métal, le nombre de groupes dans le métal ou même dans le hard rock hein, qui ont un concept SF autant marqué, bah en fait, ça court pas les rues, quoi. Il y en a peut-être une dizaine à tout casser, d'assez connus, on va dire, aujourd'hui sur la scène. Mais je me suis dit que ouais, ça allait apporter une petite touche d'originalité en plus. Et peut-être même apporter peut-être quelque chose de nouveau, puisque forcément derrière le concept de science-fiction se cachent beaucoup, beaucoup d'instruments assez futuristes, si tu vois ce que je veux dire. Notamment, par exemple, les basses qu'on utilise, ce sont des basses qui rapporte un petit quand même ce côté un petit peu futuristique, quoi. Ce sont des basses synthétiques, ouais, toute cette musique granulaire et synthétique qu'on apporte, si tu veux, vraiment servent le concept du groupe.
On va parler de vos influences maintenant. Sur votre site internet, vous marquez que vos influences vont, et vous l'avez redit en interview, de Hans Zimmer à Metallica, en passant par Born of Osiris, Rihanna et Korn. Est-ce que cet éclectisme est problématique ou bénéfique ?
Alors, moi, je ne vois que des bénéfices dans tous ces artistes qu'on a cités en tant qu'influence, dans le sens où toutes ces influences nous permettent d'apporter quelque chose d'intéressant, je trouve, au niveau de nos musiques, sachant qu'en plus que Chris et moi, on a vraiment pas les mêmes influences, quoi, en fait. Même si on a des influences communes, on a vraiment deux visions artistiques qui se marient très bien, en fait, lui et moi. Donc pour moi, je ne vois que des avantages à cela.
C'est vrai que comme le dit Amé, aujourd'hui on a la chance d'avoir je sais pas combien de genres musicaux qu'on peut écouter, je ne sais combien de genres musicaux dans la journée gratuitement sur YouTube. Et moi, je suis persuadé que dans chaque genre musical, il y a vraiment du bon à prendre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait se... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se limiter à un seul genre musical ou s'enfermer dans une case, alors que on peut très très bien aimer, par exemple, les basses de la cloud rap, et on peut très bien aimer le côté un peu agressif du métal, le côté à fleur de peau, si tu vois ce que je veux dire, tout en aimant le côté orchestral qui rapporte une touche de grandeur, une touche de qui rapporte une certaine complexité dans les émotions, tu vois. Et moi, je m'étais posé cette question, je m'étais dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hybridations qui se font dans les différentes musiques qu'on écoute. Différents artistes s'inspirent de styles totalement éclectiques. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver ?
Sachant qu'en plus, moi, la plupart des personnes, en tout cas, qui font et qui écoutent du métal, pour moi, hein, ce sont les personnes qui sont plus ouvertes musicalement. bizarrement. Que ce soit quand j'étais en école de musique ou voilà, pendant les concerts ou dans les milieux de manière générale, les personnes généralement qui écoutent du métal sont ceux qui sont plus ouverts, qui écoutent le plus de choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on a tendance à ressortir dans les interviews ou même de manière générale, des fois tu le vois sur certaines personnes sur internet ou certaines personnes qui écoutent du métal qui pensent que le métal a vraiment des genres très très fermés, c'est-à-dire que t'es obligé vraiment de faire soit du heavy metal, soit faire du thrash, soit faire du black, soit faire du metalcore, et rester vraiment que dans ces courants musicaux. Et pour nous, clairement, bah, c'est une erreur parce que voilà, il y a tellement d'influences musicaux chez un être humain que ce serait dommage de pas les utiliser pour la musique qu'il crée.
Le groupe a sorti un single récemment intitulé The Discovery. Pouvez-vous nous raconter sa création ?
Oh bah je commence, hein, Nico, puisque c'est moi qui ai mis en place les premières briques du morceau.
Ah, vas-y, hein. Ouais.
Donc, tu vois, Rémi, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il y a vraiment un concept derrière cinématographique, toute une histoire en fait qui découle de chaque morceau que l'on fait. Et en fait, si tu veux, The Discovery est le deuxième épisode dans l'histoire de Corvius. Chaque morceau que l'on sort, chaque single, est un épisode qui va rapporter plus d'informations sur l'histoire et agrémenter l'histoire des deux mercenaires Chris et Amé dans cette mission de colonisation spatiale avec différentes rencontres. On va dans chaque morceau rencontrer un nouveau personnage. Il y aura même peut-être dans certains morceaux peut-être plus d'action, plus de description ou de description dans les paroles de scènes de guerre, ou plutôt d'autres à contrario qui vont être plus dans les émotions, dans l'introspective, dans le vide de l'espace, si tu vois ce que je veux dire, le contemplatif. Et là, The Discovery, là pour le coup, il fallait absolument en fait que quand je crée le morceau, un petit peu comme la musique à l'image pour le cinéma, il fallait que le morceau colle à l'histoire qui découlait du deuxième épisode de Corvius. Et le deuxième épisode, c'est tout simplement Chris et Amé qui il y a le vaisseau Antares, qui est le mission de colonisation spatiale dans lequel Chris et Amé se retrouvent. Vient en fait tout ça est en position orbitale autour d'une planète qui a été trouvée qui s'appelle Rigel, et Chris et Amé sont envoyés en fait en reconnaissance puisqu'ils ont une analyse topographique du terrain avait montré qu'il y avait en fait une pyramide sur cette planète qui était aujourd'hui totalement inconnue. Donc du coup Chris et Amé se retrouvent sur cette planète et se rendre compte que cette pyramide a beaucoup de similitudes avec les pyramides qu'on connaît donc nous sur Terre en Égypte. Ils se retrouvent dedans et je regarde le suspense là, mais certaines inconvenues vont se passer dans cette pyramide qui va s'écrouler, qui va être un danger vraiment très important pour Chris et Amé, et de rencontres du troisième type vont avoir lieu dans cette pyramide. Et du coup, je me suis dit, avec tous ces éléments qui sont assez, assez spéciaux quand même, qui sont assez singuliers, il va falloir que je crée un morceau. Donc, tout de suite, je me suis dit, pyramide, il va y avoir une catastrophe, un effondrement de la pyramide, donc je commence le morceau The Discovery avec notamment des violons qui vont être un petit peu en crescendo, assez strident, pour montrer cette impression de danger. D'ailleurs, je sais pas si tu as écouté le morceau, mais l'introduction du coup est assez longue par rapport à ça. Et derrière, traduire un petit peu, parce qu'il va y avoir beaucoup d'action dans cette pyramide, traduire cette action par ensuite des guitares bien saturées avec un riff assez tranchant, assez agressif, très inspiré du djent de Mechuga d'ailleurs, à partir de, alors je sais plus quel minutage, mais je crois que c'est à partir de 1 minute 30, je crois bien, que ça commence vraiment à bien taper, quoi. Donc voilà, bon, bah, j'ai posé ces briques petit à petit, puis à un moment donné, bon, bah, je me suis laissé aller, j'ai continué à composer, et puis ça a donné ce morceau. Il y a même à partir de, je sais pas si tu vois de quel passage je parle, je crois que c'est à partir de 4 minutes, il y a un passage assez ambiant, assez atmosphérique, dans lequel on entend d'ailleurs Amé chanter, qui décrit en fait ce qu'il voit dans ces pyramides avec ces différents hiéroglyphes assez singuliers qui témoignent en fait de la présence d'une civilisation extraterrestre qui était passée par là, quoi. C'est assez, assez particulier, c'est un exercice assez, assez intéressant malgré tout, quoi.
D'accord. Est-ce qu'un clip va voir le jour de ce single comme vous avez fait pour le morceau The Origins ?
Alors, bah, le clip est déjà le clip est déjà fait en fait. Il est déjà en ligne, voilà, sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est le clip le plus produit à ce jour. Il a été réalisé par Cécile Del Pollo, qui est la chanteuse du groupe de metal symphonique Remember the Light, qui est une très bonne amie à nous, qui est, voilà, une réalisatrice de talent, qui a aussi collaboré avec nous sur le morceau Bullets, qui était aussi une reprise du groupe Archive qu'on avait fait à l'occasion de la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Il avait servi pour la bande-annonce du jeu à l'E3 en 2014, si je ne me trompe pas. Donc bah, vous pouvez voir le clip en ligne sur YouTube.
Très bien. Est-ce que vous faites l'animation de vos clips musicaux vous-même ou pas ?
On va dire, ouais, mita-mita. Si tu veux, Cécile, on a collaboré avec Cécile Del Pollo pour le montage et les effets spéciaux du clip de Bullets, également du clip de The Discovery. Origins, c'est Nico et moi qui l'avons fait, et là, sur le prochain single qui sortira en courant avril, mi-avril, ça va être un petit peu hybride, c'est-à-dire que c'est Cécile Del Pollo qui a fait la captation vidéo, mais derrière, le montage et les effets spéciaux, c'est Nicolas et moi qui allons le faire.
D'accord.
Okay. Voilà, donc ça dépend vraiment des fois. Il y a des fois où effectivement on est un peu pressé par le temps, donc on fait appel plutôt à des professionnels qui vont le faire pour nous. Et des fois on a un peu plus le temps de le faire, et puis on a peut-être envie aussi de se surpasser, de pouvoir être autonome, et on le fait nous-mêmes des fois. Après, tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, ça par contre c'est Nico et moi qui le faisons. Ouais. Toutes les vidéos, les petits trailers les bandes annonces, ouais, c'est nous qui les faisons.
D'accord, ok. En fin d'interview, j'aime bien poser des questions un petit peu plus légères. Voilà. Est-ce que ça vous convient ou pas du tout ?
Ouais, très bien. Très bien.
Donc, vous avez fait une reprise de l'OST de Cyberpunk dont vous venez de nous parler. Si vous deviez faire une autre reprise, ce serait laquelle et pourquoi ?
Alors,
il a en tête un morceau, Nico.
Ouais, bah non, mais en fait, on est censé, enfin, je pense qu'on va le faire. C'est le morceau Art of Life du groupe X Japan, qui est voilà une de mes influences majeures, et pour nous, ce serait intéressant de voir comment on peut arranger ce morceau à notre univers. Donc c'est un morceau, voilà, c'est plutôt du heavy metal sympho en fait, déjà de base, et là on va vraiment le mettre à notre sauce, et ce serait très intéressant de voir le résultat.
Okay. J'ai également une reprise en tête. On est, à titre personnel, je suis très inspiré du metalcore de Architects. Il y a vraiment un morceau que je voudrais vraiment reprendre, après je ne sais pas quand, ce serait le morceau These Colors Don't Run. Et c'est un morceau qui traite beaucoup du système dans lequel on vit, le système capitaliste, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je voudrais faire un jour. Par contre, voilà, on verra quand on fera ça, Nico.
Ouais.
Si vous deviez faire la BO d'un film ou d'un jeu vidéo, ce serait lequel ?
Alors, moi, ça va être très rapide. Hein. Moi, ce serait clairement un Final Fantasy, quoi. Clairement, si j'avais la possibilité de faire ouais, une bande originale pour un jeu, ce serait Final Fantasy.
Ouais. Ouais, moi, je dirais que ce serait plutôt GTA. Non, je plaisante. Non. Franchement, moi, je dirais plutôt Mass Effect. On est aussi très inspiré des jeux vidéo. Enfin, parce qu'on parle beaucoup de cinématographique, mais les jeux vidéo, bien entendu, occupent une place hyper importante dans ce qu'on essaye de créer au quotidien avec le groupe. Hein.
Là, tout de suite, la NASA vous appelle. Elle vous dit qu'elle a une navette qui peut vous emmener sur n'importe quelle planète. Maintenant, tout de suite, vous allez où ?
Vas-y, raconte-moi en premier.
Alors moi, ce serait Kepler. Kepler B. Alors je sais plus c'était. Je sais plus quelle est la planète l'exoplanète la plus habitable, enfin la réputée plus habitable aujourd'hui avec les différentes avancées scientifiques qu'on a fait, mais le système solaire Kepler abrite une planète qui serait supposée habitable à. Alors je sais plus combien de pourcentage de chance, mais qui serait la plus plausible aujourd'hui dans toutes celles qu'on connaît actuellement. Mais bon, je suis conscient que ce serait pas pour aujourd'hui. Déjà, si on va sur Mars, ce sera déjà un exploit, parce qu'honnêtement, rien qu'envoyer une sonde inhabitée, on a bien vu que c'était assez costaud quand même, assez corsé, mais sortir de notre système solaire, ça l'est encore plus. Hein.
Un groupe trop sous-coté à vos yeux.
Wow. Groupe trop sous-coté.
C'est une bonne question, ça.
Moi, pour l'instant, le groupe qui me vient en tête, hein, le premier groupe qui me vient en tête, c'est un groupe de blues rock qui s'appelle Tyler Bryant and the Shakedown. Bon, ils ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour moi, ils sont sous-cotés.
Et ma dernière question, quels sont vos projets pour cette année ?
Tellement.
Ouais, tellement, ouais. Il y a tellement.
Bah Nico, qu'est-ce que tu as en tête ?
Là, projet pour cette année, bah, toujours continuer à faire des belles compositions. Voilà, on a plusieurs qui sont en route. Il y a l'exercice très intéressant que voilà, Chris et moi on fait. Moi, ce que j'adore surtout dans les compositions qu'on fait dans Corvius, c'est apporter voilà, mes influences à la guitare et surtout, surtout mes compositions en tant que chanteur, vu qu'à la base j'étais chanteur dans mes précédents projets. Donc continuer à trouver des bonnes mélodies de chant, des belles paroles, collaborer toujours avec plus d'artistes. Toujours aussi talentueux, de plus en plus talentueux, et voilà, sortir nos prochains singles, éventuellement tourner de nouveaux clips, de nouvelles collaborations, et peut-être un financement participatif pour notre futur album, ce serait cool.
Ça, ce serait cool. Il y a également, bon, c'est clair qu'avec depuis que le Covid est là, la façon de faire du live, c'est vraiment perpétuellement renouvelé. On pense de plus en plus avec Nico à se lancer dans le live streaming. C'est clair que le Covid, bon bah, il est encore là aujourd'hui. Je croise les doigts. J'espère qu'un jour ce sera terminé tout ça. Mais c'est clair que on peut plus faire du live comme avant. Et peut-être qu'il faut qu'on commence déjà à s'adapter effectivement sur différentes façons de faire du live, surtout que bon là, de ce qu'on a pu voir, la SACEM rémunère maintenant de plus en plus le live streaming, donc vraiment quelque chose à creuser là-dessus quoi.